Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Cette émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Olivier de Cepibus. Bonjour.
Salut.
Alors, tu es ici pour nous parler d'une publication qui s'appelle Arbre. Alors, Arbre avec une particularité, c'est un T entre parenthèses situé au-dessus de art pour former le sens art. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi cette utilisation depuis quelques années, même quelques décennies, de ces petites lettres entre parenthèses ?
Ah ben ça, j'en sais rien. C'était juste pour faire certainement un style entre et associer l'art et l'arbre dans... Enfin, comment on utilise l'arbre dans l'art et comment les artistes aujourd'hui s'emparent de cet objet pour dans leur œuvre d'art, quoi. Je pense que c'est juste une figure esthétique sur la couverture.
Alors, c'est un livre dédié à la flore et arboricole principalement.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un livre qui est dirigé par Martine Francillon, qui m'avait contacté il y a assez longtemps, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, parce qu'elle avait envie de faire un livre sur, justement, l'utilisation de l'arbre dans l'art contemporain, et surtout à partir du travail d'un artiste polonais d'origine, enfin d'un artiste brésilien d'origine polonaise, qui s'appelle Franz Kretschberg. C'est un homme qui est toujours vivant, il est très âgé maintenant, il doit avoir 95 ans, quelque chose comme ça. Il y a un espace qui lui est dédié à Paris, l'espace Franz Kretschberg. Et voilà, c'est un artiste intéressant parce qu'il a d'abord vécu en Pologne. Après, avec la guerre et le nazisme, il est parti, il est arrivé à Paris. Il a rencontré Picasso, il a fait à Montparnasse, il a rencontré les artistes. Et puis, il a continué sa route et jusqu'au Brésil. Et là, il a fait une recherche artistique. Enfin, il était très certainement intéressé par l'écologie et par la question de la préservation de la nature. Et face à la destruction de l'Amazonie, lui, il en a fait à la fois une lutte et à la fois des œuvres d'art pour... C'est quelqu'un de très engagé. Et donc, voilà, beaucoup de bois brûlés à partir de brûlis de la forêt amazonienne, il les utilise, il va les recueillir et il les utilise et il en fait des objets d'art qui sont des sculptures bien, évidemment très belles.
C'est une démarche contre l'exploitation abusive de la forêt amazonienne qui est en ce moment en train d'être décimée, voire même complètement massacrée.
Voilà, c'est un travail qu'il a entamé il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, 50 ans. Alors voilà, ça fait parmi des premiers lanceurs d'alerte, on va dire. Et ça continue. Et d'ailleurs, il y a une interview dans ce livre, et elle est assez députée d'ailleurs. Il est assez pessimiste parce qu'il dit que en fait tout le monde s'en fout. Et au Brésil en premier, quoi. Les partis qui se disent ou qui se veulent même écologistes ou progressistes ou tout ce que l'on veut ne portent aucun intérêt pour la destruction de la forêt amazonienne et des conséquences néfastes. Qui sont en train de se dérouler. Donc oui, là-dessus, il est assez pessimiste et je partagerai son pessimisme.
Penses-tu que les citoyens ne puissent pas être les gendarmes du monde ?
Je pense que être gendarme.
C'est une manière de dire. Hein.
Ouais, c'est une manière de dire, mais actuellement, ce ne serait pas le terme que j'utiliserais. Vu le contexte actuel dans lequel on est. Et en tout cas, moi je dirais que. Enfin, moi j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Le rapport. Parce que gendarme, il y a derrière une idée qui se veut répressive. Ou en tout cas faire, si ce n'est pas répressif, c'est au moins faire respecter des lois, ce qui est normalement le boulot du gendarme. Et effectivement, si les institutions ne permettent pas que les lois soient respectées, et notamment celle envers la protection que l'on dit de l'environnement, effectivement, on pourrait imaginer que les citoyens pourraient être présents pour suppléer à ce déficit. Mais malheureusement, ceux qui se mobilisent sur ces questions-là, ils sont bien trop peu nombreux et dans des rapports de puissance, de force, actuellement qui n'ont rien à voir avec ceux déployés par justement ceux qui ont le pouvoir, quoi, actuellement. Donc disons que la voie, alors après, dans la préface et puis ce sur quoi s'appuie ce livre, c'est le cri qu'a lancé donc Franz Kreisberg. Qui est un cri d'alarme, un cri d'alerte, un cri pour dire que cette situation est en train de compromettre pas seulement les arbres et les êtres vivants qui vivent dans la forêt amazonienne, mais l'humanité entière. Et donc cela, le propos du livre, c'est que des artistes s'emparent de ces questions et travaillent sur ces questions-là. Et moi, il me semble tout à fait pertinent, et voire, il me semble complètement pertinent que ça soit... Enfin, que les artistes et qu'un projet artistique extrêmement militant et sans compromis se fasse sur la question de l'écologie fait partie des éléments clés qui vont permettre à une prise de conscience de cette affaire-là. Pour une raison très simple, c'est parce que on ne change pas le monde à travers justement des situations de guerre ou de souffrance, mais aussi on transforme le monde par l'enthousiasme et la joie. Et l'art et les artistes ont cela de leur côté.
Alors, on va revenir sur ce livre. Donc, tu as eu une prise de contact il y a 5 ans pour cette édition. Qu'est-ce qui t'a motivé à y participer? Et puis, tu pourras nous expliquer aussi dans quelle démarche tu as pu opérer dans cette idée.
Alors, en fait, très, très simplement, je n'ai rien fait. C'est une personne qui m'a téléphoné, que je ne connaissais pas, que je n'ai même pas rencontré, qui m'a dit, voilà, vous avez fait une pièce, voire deux même, et ça m'intéresse, et je fais ce travail sur l'arbre. En général, un artiste ne refuse pas lorsqu'on lui fait une proposition comme ça. Ça serait même plutôt le contraire. En général, on cherche plutôt ce genre de publication. Donc moi, dès le départ, j'en étais très heureux. Simplement, je ne savais pas qu'est-ce que ça allait être. Je n'en connaissais pas le résultat et la personne ne m'a jamais convié à participer à l'édition du livre. Cette édition a été d'ailleurs assez compliquée pour cette personne puisque ça fait 5 ans. Il est sorti là au mois de mars, donc l'édition est très récente. Par contre, le projet est vieux et elle a eu une mésaventure avec une première maison d'édition. Elle a dû retrouver une autre maison d'édition. Enfin bon, ça a été assez compliqué, long, et il a fallu beaucoup de ténacité, de persévérance pour qu'on arrive à cet objet-là. Alors, il se trouve que je suis très content de cet ouvrage et le propos et en même temps tous les artistes qui sont présents dans cet ouvrage forment un ensemble que je trouve très convaincant sur justement le propos qu'elle a voulu porter, qui est que les artistes, moi c'est ma conviction, on a un rôle à jouer dans la société qui n'est pas un rôle, on va dire, récréatif ou de supplément d'âme ou de loisir, on va dire. Mais mais au contraire, on a un rôle pour ouvrir des espaces de l'imaginaire, des espaces de compréhension et des espaces sensibles qui nous permettent de, par la suite, d'agir, de comprendre et d'agir, ou parfois d'agir, de comprendre, ça dépend, voilà. Donc les choses sont vraiment liées entre l'imaginaire, l'action et le désir. Les choses sont extrêmement liées, c'est très difficile de savoir laquelle des unes et des autres éléments prévaut. Et donc, dans un ensemble, le travail artistique a sa place et sa cohérence dans la transformation que l'on a de nous-mêmes, tout simplement.
Alors, je reviens à cette question. Comment as-tu abordé donc ce travail ?
Excuse-moi.
Est-ce que ton travail est présenté dans cet ouvrage ?
Ah oui, bien sûr.
Alors, et c'est ça la question. Je voulais savoir comment as-tu abordé cette idée, artistiquement parlant ou plastiquement parlant.
Ah, le travail qui est présent dans...
Oui.
Oui. Alors voilà, je présente effectivement, la personne m'a contacté pour deux pièces. Une s'appelle Immersion et l'autre s'appelle Submersion. Ce sont des pièces qui ne sont pas dans la région, elles sont dans la région d'Angoulême, qui sont toujours présentes. Et ce sont deux gros éléments qui font 3 mètres cubes. Il y en a un, c'est une cabane, c'est un élément cubique qui fait 3 mètres sur 3, ajouré avec des tasseaux en bois. Et ça fait voilà, une espèce de cage, mais plutôt esthétiquement plutôt agréable parce que c'est uniquement de bois et on ne voit aucun élément qui tient. C'est vraiment c'est quelque chose de très léger. Donc c'est resté à la couleur naturelle à l'extérieur. Par contre, quand on rentre à l'intérieur, c'est complètement peint en bleu. Et c'est dans un espace autour d'Angoulême, c'est-à-dire que pour nous, alpins ici, là-bas c'est le plat pays, on va dire. C'est un espace tout ouvert, il n'y a pas de montagne autour, il n'y a pas de... L'horizon est à 380 degrés. Et donc, une fois à l'intérieur, on baigne dans cette couleur bleue. Mais à la fois, comme c'est ajouré, on peut voir aussi à l'extérieur. Donc on est dans un entre-deux, à la fois on baigne dans une couleur et à la fois on est aussi à l'extérieur. Donc ça c'est immersion, pour s'immerger dans une couleur.
Et ces cubes sont uniquement constitués donc de tasseaux ? Où il y a aussi...
C'est uniquement constitué de tasseaux. Puis après il y a une structure métallique, mais la structure métallique qui tient le tout évidemment n'est pas visible. Et une autre pièce qui est un peu plus loin, qui s'appelle Submersion, qui est donc son pendant, on va dire. Et là, c'est 49 pièces de bois qui sont des châtaigniers, 40 châtaigniers qui sont alignés parfaitement les uns dans les autres, les uns à côté des autres, sur un carré, donc 3 mètres sur 3. Et qui sont dressés à 50 cm les uns à côté des autres et qui forment comme ça visuellement de loin un cube de tous ces éléments, de tous ces arbres qui sont les uns à côté des autres, qui sont alignés les uns à côté des autres. Par contre, au centre du cube, il y en a 9 qui sont légèrement décalés, un peu rapprochés les uns par rapport aux autres, et qui sont au centre du tronc, il y a une pièce métallique qui les entoure sur 1 mètre de haut. Et donc, comme ces pièces métalliques sont réparties sur chacun des 9 troncs, exactement au même emplacement, Et comme ça fait un mètre de haut, la pièce métallique fait un mètre de haut, et que les troncs qui sont à côté sur un carré de un mètre de côté, l'ensemble fait aussi un cube de un mètre les uns sur les autres, enfin un cube de un mètre de côté. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde la pièce et qu'on à certains positionnements, il y a un effet d'anamorphose. Alors ça, c'est le terme, peut-être que les gens ne connaissent pas bien ce terme-là, mais c'est un effet optique, on va dire. Il y a un effet optique qui fait que le cube à l'intérieur, qui renvoie la lumière parce que c'est des feuilles de... C'est des feuilles d'acier inoxydable, voilà. Donc, ça forme un élément, ça forme un volume. Il y a un volume qui renvoie la lumière. Et ça fait un effet assez troublant parce que au sein de cette masse d'arbres, il y a une autre masse lumineuse en son centre. Voilà. Ça s'appelle submersion, voilà. C'est des effets comme ça que... Et autant la première pièce immersion se trouve dans un parc de footing, enfin c'est entre le sauvage et un parc, voilà, de loisirs, et autant l'autre est dans un parc, comment on appelle ça, un arboretum. Donc c'est vraiment un endroit très, très jardiné, au cordeau, etc. Et la pièce que j'ai mise, ce gros cube de 3 mètres et ce petit cube de 1 mètre à l'intérieur, sont là pour donner quelque part un peu l'échelle à l'ensemble aussi. C'était aussi le rapport que j'avais envie de donner à cet espace. Voilà.
Alors cet ouvrage qui est sorti donc il y a un mois, il est trouvable à dit ou alors il faut mieux commander par internet?
Alors c'est un ouvrage, comme on dit, c'est un ouvrage qui est lourd et qui pèse son poids. Il coûte 38 €, donc il est assez onéreux, mais c'est un très bel ouvrage pour ceux qui peuvent se le payer. Et je l'ai fait commander par la médiathèque. Donc il sera présent à la médiathèque et je pense que la librairie Mosaïque va en prendre un exemplaire pour quelqu'un qui voudrait le consulter et l'acheter, quoi. Voilà.
Les artistes qui sont à l'intérieur de cet ouvrage sont de tous les pays ou alors il y a plutôt une option nationale
Alors je dirais qu'il y en a un peu de tous les pays, mais ils habitent surtout en France. Parce que il était quand même plus simple pour cette personne de travailler sur un ensemble, sur l'ensemble du territoire que sur un ensemble international. Donc c'est en très grande partie des artistes soit français, soit européens, et un petit peu aller un petit peu chercher à l'international aussi, oui. Alors, je ne vais pas les citer parce que bon...
Il y en a quelques-uns de la Drôme, par exemple, part toi.
Pas moi, non.
Non, tu es l'unique de la Drôme.
Je crois bien, ouais. Il y a un grenoblois, Samuel Rousseau. J'ai lu qu'il habitait à Grenoble, je ne savais pas. Sinon, non, c'est pas trop... Ouais, c'est assez bien réparti, quoi.
Comment ça se passe après, une fois l'édition publiée et vendue? Bon, après, peu importe la quantité, mais est-ce que, dans quelle mesure y trouves-tu un intérêt financier ensuite?
Ah non, là-dessus, il n'y a aucun droit d'auteur qui est versé. D'ailleurs, c'était le deal dès le départ, quoi. Donc c'est pour ça que lorsque cette personne m'a demandé si je voulais apparaître dans un livre sur l'utilisation de l'arbre dans l'art aujourd'hui, mais qu'en revanche je ne serais pas payé pour la parution, moi j'ai dit oui, mais je fais rien d'autre, quoi. Je lui envoie mes photos et je fais rien d'autre. Maintenant, il se trouve que ce livre, c'est un bel objet, qu'il est sérieux, qu'il est bien fait, et que je suis très content d'être présent parmi tous les artistes qui sont dans ce livre. Donc voilà, moi personnellement, j'y trouve un intérêt, on va dire, personnel, un petit peu égocentrique, d'être parmi toute cette tous ces artistes que personnellement j'aime beaucoup aussi. Bon voilà, c'est pas que égocentrique, c'est aussi une façon de se retrouver dans un florilège d'artistes que moi j'apprécie.
Voilà. Les artistes, donc, est-ce qu'il y en a qui sont très connus parmi eux ?
Ah bah oui, oui. Ah, le problème de l'art aujourd'hui, c'est que il y a un tel, comment dire. Et donc il y aura toujours des gens qui seront grand public, mais qui ont une attention, puis comment on appelle ça, une sensibilité, puis. Pour l'art dit contemporain, moi ça me gêne énormément ce terme-là, et qui vont connaître. Donc voilà, si j'ai dit des mots comme Nils Sudo, comme je sais pas moi, même Pierre Alechinski, c'est quand même un artiste
oui.
extrêmement connu. Ernest Pignon Ernest, bon voilà, c'est des gens extrêmement
oui,
connus.
Donc, oui, donc il y a des gens très connus.
Il y a des gens, oui, ça là-dessus, il y a des gens très connus, mais je crains que le commun des mortels ne les connaisse pas. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a un vrai et grand déséquilibre entre entre des artistes qui font des vies artistiques extrêmement extrêmement riches et extrêmement denses et qu'ils permettent et qui ont des œuvres fortes. Dans beaucoup d'endroits et en même temps que aujourd'hui le grand public n'y porte enfin les gens le grand public n'y porte aucun intérêt ça c'est voilà comme ça quoi.
Voilà, encore faudrait-il trouver les meilleurs moyens de communication dans ce domaine.
Les meilleurs moyens de communication dans ce domaine, moi ils sont très simples hein, à l'école tout bêtement qu'est-ce qu'on nous apprend et vers quoi on nous tourne le et vers quoi on tourne notre intérêt. Voilà, c'est si l'art faisait partie de la maternelle, des choses quotidiennes, sans complexe et avec la plus belle des ouvertures des intérêts, je crois que ça serait très simple.
Dernière, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure, il a fait son beurre. L'apiculteur. Dernière, l'apiculteur effleure. La fin du labeur. Happy, happy culteur. Dans une autre vie, les marguerites, ces feuilles de ralenti. Personne n'est vainqueur. Les proies, les prédateurs. Savoure le nectar d'une pomme d'api. Happy, happy culteur. L'heure c'est l'heure, on n'est pas d'humeur. À verser des pleurs, fiers sont les ouvrières. Le jour en tailleur, le soir en guipière, quand la mort vous susurre, les serments veloutés, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance, ni la chaleur, ni les piqûres. Happy, happy culteur. Happy, happy culteur. dernière, l'apiculteur sommeur trouve l'interrupteur. Une oasis, vous allez border des panniers que la splendeur n'effraie plus. Happy, apiculteur. Happy, apiculteur. Happy, apiculteur.
On va aller en direction de l'apiculture, puisque c'est un autre domaine qui t'occupe. Et je crois même que tu associes l'apiculture à l'art dans ta démarche.
Oui, bah, là, après, c'est le parcours qui fait qu'effectivement, lorsqu'on a comme ça une attention particulière pour le vivant, l'écologie, j'aime pas trop ce terme parce que c'est vite connoté, donc je préfère maintenant parler de vivant. Même la nature, c'est assez connoté. Donc lorsqu'on travaille sur le vivant et lorsqu'on y porte une attention, et que l'attention que je porte, c'est une attention sensible et pas une attention, on va dire, scientifique. Je pense que les choses, elles sont complémentaires. Donc effectivement, je me suis emparé de cette question de l'apiculture pour en faire un objet artistique, voilà. Et donc aujourd'hui, ben je vis et je travaille à Die. J'ai mon rucher à Die. On peut acheter le miel. Je vais faire sa pub chez Christine. Et ça s'appelle le goût du paysage. Et j'associe un paysage. Donc quelque chose qui est aussi une appréciation esthétique, à une information gustative qui est dont le miel a les propriétés. Donc lorsqu'on goûte un miel qui a été fabriqué dans un paysage et que les ruches n'ont pas bougé, évidemment, le miel porte l'information gustative du paysage, il a le goût du paysage. Et maintenant, je travaille sur une idée de design paysager, c'est-à-dire que comment faire pour qu'un paysage, pour qu'un territoire soit propice à la vie, à la prolifération des abeilles et à tous les insectes pollinisateurs. Et il se trouve qu'il faut qu'il y ait une très grande diversité paysagère, c'est-à-dire diversité des écosystèmes, et avec un très grand nombre de plantes dites mellifères, c'est-à-dire qui donnent du nectar pour faire du miel. C'est comme cela que s'appellent les plantes à miel, donc c'est des plantes mellifères. Donc il faut qu'il y ait une grande présence de plantes mellifères et tout le long de l'année, voilà. Et il se trouve que à certaines périodes de l'année, il peut y avoir des très gros déficits de plantes mellifères, ce qui est le cas à Die. En été, c'est la sécheresse, mais en plus, il y a peu de plantes qui fleurissent à ce moment-là. Donc il y aurait un travail aussi à faire de plantation de plantes mellifères
La lavande, par exemple
La lavande, là, en plus, avec le réchauffement climatique, ça s'avance de plus en plus. Donc, selon les années, au 15 juillet, ça s'arrête. Et là, cette année, vu les conditions, bon, on va voir, quoi. Mais il se pourrait que même début juillet, ça soit fini. Donc, après toute la longue période estivale, juillet-août, voire même l'année dernière, même début septembre, c'est compliqué parce que y a peu de ressources pour les abeilles.
Je suppose que l'apiculture, tu la pratiques en atelier pour préparer les ruches traiter le miel. Donc, tu ne faisais pas partie des ateliers au chemin de fer?
Alors, à une époque, j'étais au chemin de fer. Maintenant, je suis à la bonnetterie. Voilà.
D'accord.
Donc ceux qui veulent du miel peuvent venir soit acheter chez Christine, soit aller à la bonnetterie et ils peuvent m'en acheter en direct, quoi.
Et puis on peut peut-être savoir où consulter ton travail si tu en as sur internet.
Après j'ai un site, c'est olivier-de-cepibus.com sinon c'est le goût du paysage tout attaché. .com aussi, c'est les deux sites qui présentent mes travaux.
Et donc, je rappelle l'ouvrage, la maison d'édition, comment s'appelle-t-elle?
Alors, la maison d'édition s'est éditée à la Manufacture de l'Image. L'ouvrage s'appelle Arbre, donc avec le T au niveau, après le R entre parenthèses, Arbre et art contemporain pour une écologie du regard.
Eh bien, Olivier, merci d'être venu nous parler de cet ouvrage et de ce livre, donc. Et bonne soirée.
Merci de m'avoir invité.
Interview.
À bientôt.
Au revoir.
Interview.
Okay. The bear.